une joie d'être avec vous. Avec moi va enseigner aussi notre frère Célestin. Okay, on sera deux pour les 7 semaines. Et pour ça, on a choisi, bon, mais ce n'est pas aujourd'hui une étude sur le livre de l'Apocalypse, mais on étudie dans le livre de l'Apocalypse. On va faire un voyage aujourd'hui, ça va nous donner le goût de peut-être de voyager. Et c'est bon parce qu'on va se promener un peu dans la Turquie actuelle, c'est l'Asie mineure. Et on est dans le temps de l'Empire romain. Sans oublier que bon, ces lettres, cette église-là, sont adressées, c'est sûr, à cette église-là, à cette église. Pas cette église, cette église. C'est pas évident, hein? Mais le chiffre 7, dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Mais nous allons étudier ce que Dieu a permis par la main de l'apôtre Jean de pouvoir écrire ces 7 messages. C'est sûr que le message était adressé aux 7 églises, mais comment appliquer ce message pour nous maintenant? C'est sûr que oui, il y a une application pour nous. La parole de Dieu, c'est pour nous aussi. Donc, mais il faut avant voir. Comment le message est adressé au début, à cette église-là. Et après, on peut l'appliquer pour nous. De toute façon, la parole de Dieu est vivante, OK? Puis, c'est adressé pour toutes les époques. Merci, mon frère, pour ces mots. Et juste à côté, à votre droite, là, en bas, vous allez voir que cette lettre, ou cet oracle, si on peut dire, cet message, c'est aussi adressé à l'église de Rosemont. Donc, il y a toutes les églises, en fait. Non, je n'ai pas fait exprès. C'est juste le logo de notre église. Mais ça tombe bien, là, parce que c'est aussi adressé à l'église de Rosemont. À nous. Nous sommes l'église. C'est bien? Donc, nous allons commencer. Et où se trouve cette lettre, cet message, cet oracle, si vous voulez l'appeler? Où se trouve? Dans quel livre? Apocalypse 2 et 3. Mais c'est sûr que vous connaissez, vous êtes des lecteurs, vous lisez souvent la Bible, je crois, et plusieurs même ici ou parmi nous, il y en a qui l'ont lu plusieurs fois la Bible, même dans l'année, il y en a qui aiment beaucoup lire, donc dans l'année, ils pouvaient peut-être vous rendre à 2 fois déjà à lire la Bible au complet, et c'est vraiment bon ça, donc je nous encourage à le faire. Mais commençons par le début de ce livre-là, l'Apocalypse. Donc on va aller, parce que pour arriver au message de cette église, on va aller lire ce qu'il dit avant, OK? Avant que Jésus lui-même révèle ce message aux églises, on va lire ce qui est écrit avant. Donc, on va lire dans Apocalypse 1, versets 1 à 3, OK? Au début du livre. Apocalypse 1, 1 à 3. Mais vous l'avez à l'écran, mais si vous l'avez dans votre version, c'est bon, parce que des fois, on utilise d'autres mots, même d'autres langues, c'est bon qu'on puisse voir de quelle façon est écrit, comment on traduit, OK? Mais on va regarder, si vous lire avec moi, c'est le verset 1 à 3, ici à l'écran. Est-ce qu'en arrière, là, vous lisez bien? Mais en arrière, il y a juste des jeunes, là. Hein? Il y a des jeunes, des moins jeunes aussi, mais c'est bon. Si vous lisez, ça veut dire que c'est bien, la grandeur. Donc, comment ça commence? Révélation, mais le mot révélation est traduit en français, c'est bien traduit en français, là. Et d'ailleurs, le livre en anglais, ça s'appelle Revelation. Mon anglais n'est pas bon. OK, mais en fait, le mot apocalypse, c'est le mot apocalypto en grec. C'est pour ça qu'on l'appelle, nous, l'apocalypse en grec. Et puis en espagnol aussi, c'est ça, l'apocalypsis, non? C'est ça, donc, mais révélation dit de qui? De Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui se trouve écrit, car le temps est proche. Le temps est proche. Qu'est-ce qu'il fait allusion à quoi le temps est proche? Oui, donc c'est quoi le temps qu'on vit maintenant? C'est le temps dernier, c'est le dernier temps, ok? Donc c'est ce qu'on vit maintenant, le temps est proche, il dit. Et il dit, regardez juste maintenant, là, regardez là, comment ça finit ce passage-là. Il dit, heureux celui qui lit, ok? Donc il y a quelqu'un qui lit. Vous allez voir que les épîtres, les lettres sont adressées aux anges. Là, il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire l'ange? C'est plusieurs interprétations, là, ok? Mais on va voir ça tantôt, cet aspect-là, quand on va lire les oracles aux églises, là. Il dit, heureux celui qui lit, c'est-à-dire que ces lettres, cette lettre, parce que l'Apocalypse elle peut être ici considérée comme une lettre, comme une épître, le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas juste une lettre, mais elle peut être considérée. Le livre peut être considéré comme une lettre ou comme une épître. Donc, il dit, heureux celui qui lit. On pense que, vous savez, dans les temps où il était écrit, comme les épîtres de Paul, mettons, ou Pierre. Comment on lisait les épîtres de Paul et Pierre? Est-ce que vous pensez que Paul, ou dans les temps de l'Église, là, mettons, quelques années plus tard, là, admettons les années, je veux dire, 80 ou 90, ou le premier siècle, mettons, pensez-vous que dans les églises, ils disaient, ouvrez votre parchemin dans l'épître de Paul, ou ouvrez votre... comment je peux dire? C'est quoi le parchemin? L'autre, c'est quoi? Parchemin, l'autre, le papyrus. Ouvrez votre papyrus dans Ésaïe et... Non, il n'y avait pas vraiment des copies comme maintenant. C'était des lettres ou des choses qui circulaient, okay, au moins dans le temps de Paul et Pierre. Les lettres circulaient, étaient lues dans les églises. Donc, il y avait normalement quelqu'un qui lisait. C'est pour ça qu'il dit, heureux celui qui lit. Donc, c'est vrai que ça s'applique à nous aussi, qu'on lisons, et chacun individuellement. Et ceux qui écoutent les paroles, vous voyez là? Celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles. Donc, ce livre-là a été lu dans les assemblées. Vous vous rappelez qu'on a lu au complet il y a combien de temps, là? Je ne sais pas, quelques mois. Ça passe vite le temps. Hein? Quelques mois, on a lu l'Apocalypse au complet lors d'un culte. C'était long, c'était ardu, mais c'était bien, c'est bénissant. On a tout lu l'Apocalypse. On ne l'a pas étudié au complet, mais au moins, maintenant, on va commencer avec une étude. Des trois premiers chapitres au moins, parce que les lettres, c'est du chapitre 2 au chapitre 3, comme c'est écrit là. Oh non, c'est pas écrit là. Car le temps est proche. Donc, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, est une révélation, c'est-à-dire un dévoilement, un dévoile de Jésus-Christ, destiné à éclairer et non à cacher. Okay? C'est pas quelque chose qui est caché là. C'est vraiment des choses qui sont dites par Jésus. Okay? C'est une révélation. Okay. C'est vrai que si on lit tout l'Apocalypse, il y a des choses que l'ange a dit, il faut sceller, il faut pas le dire, peut-être une fois, là, je crois que c'est dit, mais c'est des choses que Jésus dévoile pour les églises. Donc, il est particulièrement donné pour encourager l'Église dans ces derniers temps. Il y en a des gens qui disent, non, je ne veux pas lire l'Apocalypse, ça me fait peur ce livre-là, ou c'est compliqué. Il y a trop de symboles. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles. En tout cas, personnellement, je pense qu'il ne faut pas le lire de façon littérale, comme quelque chose que ça va. Je sais qu'il y a des différences d'interprétation, position même eschatologique, là, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on doit lire et puis voir. Il y a beaucoup d'images et chaque image représente quelque chose, un message que Dieu a à nous dire. Donc, mais en tout cas, le message, en fait, c'est le même. Il est particulièrement donné pour encourager l'Église dans les derniers temps. Le centre du livre, il ne faut pas oublier, c'est quoi? Ce n'est pas les événements futurs. Oui, c'est vrai qu'il y a des événements futurs. Quel est l'événement futur qui nous frappe le plus là, dans l'Apocalypse? La victoire, le retour. Ben oui, la victoire, retour. Et beaucoup de gens nous disent à la fin, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, ok? Là, on va tous habiter le paradis des dieux. Là, on va le lire aujourd'hui. Donc, mais ce n'est pas les événements futurs, mais la personne, la victoire de Jésus. C'est un livre qui nous encourage. C'est victorieux. Ça nous raconte la victoire de Jésus. Et que ce soit qu'on le lit, on le lit de façon linéaire ou cyclique, là, on voit vraiment à chaque fois, plusieurs fois même, la victoire de Jésus dans ce livre-là. C'est sûr que, comme je dis tantôt, c'est un genre dans le temps, le premier temps de l'Église, même avant l'Église, quelques 200 ans avant Jésus, ou 100 ans avant Jésus, il y avait ce genre qu'on appelle le genre apocalyptique, donc des images, ok? C'est un genre d'écriture, comme narratif, c'est un genre de littéraire. Le genre littéraire de l'Apocalypse, c'est prophétique, c'est apocalyptique. Mais c'est aussi épistolaire, aussi, si on peut dire. C'est une lettre aussi. Quand il dit écrit, c'est une lettre. Et tantôt, on va voir comment Jean introduit. C'est vraiment un peu comme la façon que Paul introduit ses lettres. Donc, c'est varié. L'Apocalypse a aussi un genre narratif aussi, épistolaire, apocalyptique, comme je dis, prophétique même. Pourquoi? Parce que ça nous dit des choses qui vont venir encore, qu'on ne connaît pas. Il annonce aussi un peu à la façon de l'Ancien Testament et la volonté de Dieu. Vous rappelez que les apôtres, les prophètes, là, qu'est-ce qu'ils avaient comme message? Les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est quoi le gros des messages? Il y a un écho, je crois. Hein? C'est un peu fatigant, ok. Le gars du son n'est pas là? Bon, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y avait comme message, là? Oui, des révélations, oui. C'était quoi le message des prophètes, là? Oui, les prophètes ont annoncé la venue du Messie, oui. Donc, ça veut dire qu'il annonce l'avenir. Mais rappelez-vous, dans les temps des rois, qu'est-ce qu'ils faisaient, les prophètes? À part d'annoncer des choses à venir. Ils exhortaient le peuple à revenir. Et je crois que si vous lisez, mais vous avez lu, là, surtout la période des rois, là, et surtout c'est là qu'il vient beaucoup les prophètes, là. C'est quoi? C'est vraiment des exhortations, ok, à faire la volonté de Dieu, ok, de revenir à cause de l'infidélité du peuple. Souvent, les prophètes étaient envoyés à cause de l'infidélité du peuple d'Israël. Revenir, ok? Mais oui, ça comprend aussi les choses comment annoncer des choses à venir, mais surtout la volonté de Dieu pour son peuple. Ok, donc faisant cette introduction face au monde, le livre de l'Apocalypse, où elle se voit faible et écrasée. Vous voyez, on est à peu près dans les années, le premier siècle de la vie de l'Église, là. Ok, faible, écrasée, les Églises avaient besoin d'être encouragées et regarder la victoire du roi. Donc, Dieu est sage, hein, et comment il a placé vraiment dans le canon biblique ce dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, pour encourager les églises qui venaient de voir le jour il y a quelques 10 décennies. Là, okay? C'était quand même. On considère que le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean dans les années 90 ou 95 de notre ère. Donc, quand même, c'est le premier siècle. Probablement le dernier livre a été écrit pour le Nouveau Testament. Donc, c'est après qu'il. Et ces livres se sont formés dans le canon biblique, dans le premier siècle de notre ère. Donc Jean écrit pour montrer la réalité spirituelle cachée derrière les apparences terrestres, les souffrances, les persécutions. Christ est le véritable vainqueur. Dans les 7 messages, là, on va entendre beaucoup ce mot-là, le vainqueur. Le livre invite les chrétiens à détourner leurs yeux de leurs souffrances terrestres pour contempler le Tout-Puissant qui tient leur destinée entre ses mains. Si on se place aux années que le livre a été écrit, on pourrait dire ça. Mais est-ce que ça s'applique pour nous, cela aussi? Ben oui, pour nous les chrétiens, là, les disciples dans le temps, c'est de détourner leurs yeux des souffrances. C'est vrai qu'on ne souffre pas comme les premiers disciples, ok? Mais est-ce que ça va venir? Probablement. Est-ce qu'il y en a qui sont persécutés dans votre milieu? Probablement aussi. Donc, ce sont des épreuves, même des persécutions que vous suivez à cause de votre foi. Donc, ce livre nous invite à contempler le Tout-Puissant qui tient la destinée dans ses mains. Donc, avançons dans ce encore là dans ce premier, on va lire probablement tout le premier chapitre. Donc avançons dans ce premier chapitre. Il dit, là, Jean, vous voyez là, l'introduction de Jean, là, c'est vraiment comme les épîtres de Pierre, Jean, Paul, plusieurs autres qui ont écrit des épîtres. Jean aux sept églises qui sont où? En Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né entre les morts et le souverain des rois de la terre. Et ça, c'est un chant que vous connaissez. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. C'est toute une introduction, hein? Et c'est à la façon un peu de l'apôtre Paul, quand il introduit ses épîtres. C'est vraiment une introduction. Et glorieux dit Jean aux sept églises, là, spécifique. Hein? Quand on voit Jean et Pierre, mettons, Paul qui écrit à l'église de Corinthe, spécifique, il écrit à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse aussi. Paul écrit à l'église d'Éphèse, qui se trouve à Éphèse, aux églises même qui se trouvent à Éphèse. Peut-être qu'il n'y avait pas juste une église, il y en avait plusieurs églises, mais il s'adresse à l'église dans la ville d'Éphèse, ou que l'autre ville, Colossiens, à Philippe aussi. Donc, Jean s'adresse aux églises en Asie. Et que la grâce soit donnée de la part de... Vous voyez la Trinité déjà? OK, il y a le Tout-Puissant. Qui est celui qui vient? L'Esprit de Dieu est là. Il représente les sept esprits, c'est-à-dire qu'il remplit tout. Pas qu'il y a sept esprits. OK, il y a un seul esprit, un seul Saint-Esprit. Mais il y a cet esprit de façon qu'il remplit tout. OK? Et Jean n'est pas en train de dire qu'il y a sept esprits. De toute façon, l'esprit est où? Il est partout. Ici, s'il y a sept églises, l'esprit est dans les sept églises. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, il écrit à... Est-ce que vous voyez bien un peu l'image? Bon, vous voyez un peu. J'aime les images. Quand j'aime vraiment me situer où on se trouve. OK? Puis là, Jean est en train d'écrire... aux églises qui sont en... Vous voyez, Asie, là? Oui? Vous lisez? Ouais, ben c'est bon. Donc, ça veut dire que c'est assez grand. OK. Asie, c'est là, l'Asie mineure. C'est là, l'actuelle Turquie. L'ouest, OK, de Turquie. J'imagine que la Turquie, ça doit être un beau pays. Hein. J'aimerais un jour y aller, la voir. J'aimerais me promener sur les... Waouh, ça doit être vraiment beau. Un jour, peut-être. Mais... C'est un peu difficile, un peu la situation là-bas. Je ne sais pas si pour les comment on appelle ça, pour les touristes, c'est assez sécuritaire. Moi, je suis un peu peureux, là. Donc, même à mon pays, je ne veux pas y aller, là, c'est trop dangereux. Donc, mais regardez, c'est dans Asie mineure. Vous voyez, Rome est où, là? C'est à gauche, Jérusalem. C'est à peu près dans ces là. Et vous voyez, là, les premières... années, l'impact que l'Église a eu dans les premières 200 ans, là, se situe vraiment autour de tout cela. OK? Dans le temps de la proclamation de l'Évangile. Et Jean écrit à ces églises-là dans Asie. Continuons la lecture. OK? C'est Jean a une vision du Christ. OK? À partir du verset 9, là, jusqu'au verset 20, là. En bas, Jean a une vision du Christ. Si vous lisez dans votre Bible, c'est là qui commence un peu la vision. Là. Donc, moi, Jean, qui suis votre frère, il dit, et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Et là, il le nomme. À Éphèse, Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Vous voyez, c'est vraiment représenté les sept églises. Est-ce qu'il y avait d'autres églises dans le temps des gens? Oui, il y en avait d'autres, c'est sûr. Pourquoi il a choisi juste cette-là? Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Okay. n'aura pas la réponse là. Mais il y a quand même quelque chose de logique dans ce circuit-là, si on peut dire. Okay? C'est voulu par Jean. Okay? Peut-être, on sait que Jean connaissait très bien ces églises-là. Jean a eu un ministère en Asie mineure. Okay? Même à Éphèse, il était connu, il y a eu un ministère dans les... On ne le voit pas dans les écrits du Nouveau Testament, mais il y a des pères de l'Église qu'on les appelle, des premiers qui ont écrit, des chrétiens même aussi, qui ont écrit. Et puis on rendu témoignage de vraiment ce qui est arrivé avec les apôtres. Et Jean en est un qui avait un ministère en Asie mineure, était connu à l'église d'Éphèse aussi. Mais ce que j'aime là dans cette introduction aussi, encore là, que Jean se présente comme un frère. Qu'est-ce qu'il dit là? Moi, Jean, je suis votre frère. C'est très personnel hein, comme épître. Hein? Je suis votre frère. Donc, il dit, donc ça veut dire qu'il y avait quand même, il était connu de ces églises-là. Je suis votre frère, il dit. Jean se présente comme un frère partageant la tribulation. Qu'est-ce qu'il dit aussi? La royauté et la persévérance en Jésus. Je suis votre frère. Il est probablement exilé sur l'île de Patmos. Okay? Il y a des commentateurs qui disent, non, peut-être il y a juste un ministère à l'île de Patmos. Et l'île de Patmos était quand même assez grande, là. Puis il y avait plusieurs églises. Même actuellement, il y a une église qui a été dédiée à l'apôtre Jean. Là. C'est gros, là. C'est vraiment une grosse église, là. C'est très touristique à Patmos. Mais est-ce qu'il s'est trouvé là à cause d'un ministère? Peut-être il avait un ministère, il connaissait déjà l'île, mais c'est plutôt, je crois, et là que je suis d'accord avec plusieurs, mais la majorité, ils pensent que Jean est exilé. À cause de quoi? Il le dit dans l'Épître, à cause de son ministère, à cause de son témoignage, à cause de la fidélité de la parole de Dieu, des témoignages de Jésus. Il le dit, en fait, dans l'introduction. Il peut dire aussi à cause que, le fait de dire à cause du témoignage, c'est aussi dire à cause du ministère de l'Évangile. Ça pourrait être traduit comme ça aussi, compris comme ça aussi, mais je crois que c'est vraiment qu'il était exilé. Il y a des livres extra-bibliques, encore là, historiques, de ceux qui ont écrit au début, qui témoignent que vraiment Jean était exilé à l'île de Patmos. Donc, il est saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Et là, je dis faisant probablement, okay? Parce qu'il y en a qui pensent aussi que le jour du Seigneur dans l'Apocalypse fait référence au dernier jour, au jour du jugement, mettons. Ça pourrait, c'est correct, c'est bien, mais je crois que l'expression jour du Seigneur dans le temps apostolique, ça fait beaucoup référence plutôt à quel jour? Le dimanche, aujourd'hui, le jour du Seigneur, le jour de la célébration de la résurrection de Jésus. Je crois qu'il fait référence à ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il entend? Jean, il entend une voix forte semblable, un son d'une trompette qui attire l'attention et convoque, il est convoqué pour un message et divin aux sept églises. Un peu à la manière, comme je dis tantôt, de l'Ancien Testament. Il reçoit l'ordre, et vraiment c'est l'ordre d'écrire, là. Donc, il reçoit l'ordre de ce qu'il voit. Mais bien sûr qu'il reçoit cet ordre-là, mais Jean utilise un peu aussi son langage aussi, à lui-même, pour décrire ce qu'il voit. OK? Donc, Jésus lui dit, écris cela, mettons, dans les visions, écris un chevalier et tout ça. Il décrit, OK? Mais Jean, à sa façon, il l'écrit pour nous, là. Donc, c'est vraiment Jean qui écrit, mais c'est guidé par le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Et surtout pour les oracles des églises, c'est clairement ce que Jésus dit que Jean écrit, surtout dans les oracles, donc à la manière des prophètes. Donc, le message doit être consigné, doit être écrit, doit être transféré dans un livre et envoyé aux sept communautés de l'Asie mineure. Comme on l'a dit, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, on va entendre beaucoup parler de ces sept églises. Okay? Donc, on va le voir dans les prochains dimanches, les 7. Aujourd'hui, on va commencer par l'église d'Éphèse. Mais regardez dans la carte. Là, je fais un zoom là, un peu pour me situer dans... Vous rappelez la carte tantôt, l'Asie, que j'avais marqué l'Asie mineure. Là, je fais un zoom, là, OK? Puis là, je me situe vraiment près, de là, dans l'Asie mineure. Vous voyez Patmos, là? Patmos, c'est juste peut-être à 100 kilomètres d'Éphèse. C'est pas loin, là. Et donc, Jean écrit à partir de Patmos, et puis écrit à l'église d'Éphèse et d'Esmyre. Et voyez les circuits? Ça a de l'allure, hein? On dirait qu'il y a des routes. Oui, dans ce temps-là, il y avait des routes. Et les Romains étaient champions pour construire des routes, des belles routes même, pavées. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de l'Antiquité. Les Romains étaient vraiment bons pour les construire. Pas comme ici, là. Vous avez vu nos routes? Je pense que les Romains, s'ils voyaient nos routes, ils pleuraient. Ils construiraient des routes en pierre. Mais il y avait des belles routes dans le temps. Donc, le livre est rédigé à la fin du premier siècle. Donc, vous voyez les sept églises? OK? Donc, c'est comme la route d'un messager, de quelqu'un qui donne le courrier, qui se promène pour apporter le courrier. Donc, en fait, quand vous recevez du courrier à la maison, est-ce que vous ouvrez l'enveloppe? Oui? Oui? Mais s'il y en a plusieurs à la maison, vous les ouvrez tous? Non, vous ouvrez les enveloppes qui sont adressées juste à vous. Mais on dirait que cette lettre-là, c'est ouvert, hein, parce qu'on est en train de lire les lettres de tous qui sont écrites à Éphèse, Smyrne, et puis je crois que dans les temps, ces lettres-là ont été écrites, pas juste, dit juste à Éphèse, là, mais partout, toutes les églises. Autour des rôles, ils se sont promenés et ont donné ces messages dans cette église-là. Donc, le livre est rédigé à la fin du premier siècle, comme on le dit tantôt, sous le règne de l'empereur Domitien. C'est un des empereurs. L'empereur, quels empereurs on a eu en Rome, dans l'empire romain, c'est Auguste, quoi d'autre, on pourrait nommer? Néron qui a persécuté durement les chrétiens dans les années 60 après Jésus. Donc, le temps de la persécution très forte envers les chrétiens, c'est déjà passé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas persécutés maintenant. Ils sont encore sous l'Empire romain. Mais un des pires des persécutions ont eu lieu à l'époque de Néron. Contrairement à ses prédécesseurs domitiens, impose d'être adoré, OK, de son vivant, il s'est fait appeler même Seigneur et Dieu. Sérieux, là, c'était fort, hein, ces empereurs-là. Avant, oui, les empereurs étaient divinisés, si on peut dire, OK, mais il n'y avait pas vraiment une consigne, quelque chose qui devait, les gens devaient faire. À l'époque des Domitiens, lui a comme instauré cela, cet culte à l'empereur. Donc, les gens étaient obligés à rendre culte à l'empereur. Et on va voir dans les photos un peu qu'il y a des temples qui sont construits pour ces empereurs-là. Donc, la province d'Asie est le foyer principal de ce culte à l'empereur. Une statue colossale de l'empereur est érigée même à Éphèse. Et on va le voir tantôt, j'ai essayé de trouver quelques photos. Pas quelques photos, c'est vrai, quelques images. Parce que j'ai cherché sur Google, j'ai dit, s'il vous plaît, trouvez-moi des photos d'Éphèse dans le premier siècle. OK? Siècle. Puis là, Google me répond, il n'y en a pas de photos pour cette époque-là. Il y a des images qu'on pourrait vous montrer. Et c'est vrai, c'est juste des images. Dans le temps, les gens dessinaient un peu les villes. Hein? Donc, on a juste des images. Mais maintenant, avec IA, on peut quand même faire beaucoup de simulations. Hein? Et près du... Et même du vrai, hein? Okay, donc ça aide, dans ce sens, ça aide. Mais pour d'autres choses, ça n'aide pas. Donc, la vie sociale est totalement imprégnée par le... On est dans l'Empire, encore là, on est dans... Je suis en train de nous situer dans quel contexte ces épîtres, ces lettres, ces oracles, ces messages ont été écrits. Donc, la vie sociale est totalement imprégnée par le paganisme. Et les cérémonies religieuses se mêlent à tous les actes civils. Et pour exercer un métier même, okay, dans le temps, soit c'est artisanat ou commerce, il était obligatoire d'appartenir à une corporation. Là, okay? Rappelez-vous, dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'il y avait comme corporation, si on peut dire, à Éphèse même, vous vous rappelez? Les gens se sont convertis. Il y a eu quelqu'un qui n'était pas content parce que les gens croyaient en Jésus comme leur sauveur. Ils ne pouvaient pas vendre ces statues de Ratois Saint-Joseph, là. C'est ça, le temple d'Artémis, là. On va voir tantôt, là. Donc, pour exercer un métier, était obligatoire d'appartenir dans ce temps-là à une corporation. Okay? Donc, c'était difficile pour les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il fallait s'afficher comme chrétien. C'était un genre aussi de persécution. C'était difficile dans le temps. Le culte de l'empereur est vu comme nécessaire. À cause de qui? On l'a vu tantôt de cet empereur-là, de Domitien, c'est ça. Et vu comme nécessaire pour réussir socialement dans les affaires. Okay? Donc, il y a quand même une pression sociale, surtout pour les chrétiens dans ces temps-là. Je vais continuer avec la vision. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, vous voyez là, au milieu. Qui est au milieu des chandeliers? Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est qui, d'après vous? C'est Jésus, un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe qui portait une ceinture d'or sur la poitrine. La longue robe, ça veut dire autorité, vraiment. Plus longue était la robe, plus d'autorité il y avait dans le temps. Donc, une longue robe, et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine, blanche comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Vous voyez la vision des gens, là? Vraiment, il nous décrit vraiment comment il voit cette image du fils d'homme. Le fils de l'homme, c'est une expression qui revient souvent dans l'évangile de Marc ou de Luc, je crois. Okay? Ça fait référence vraiment à Jésus. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Okay? De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il y en a beaucoup qui ont voulu comme dessiner un peu à quoi il semblait. C'est sûr que c'est Jésus, mais c'est dur le dessiner avec une robe, oui, la ceinture, une épée dans sa bouche. C'est bizarre là, comme image, hein? Mais c'est encore là. Ce sont des images. Là, l'épée, ça fait référence à quoi? À la parole de Dieu. C'est des images fortes. Et on est rendu au dernier livre de la Bible. Toutes ces images-là, si vous voyez, on les a déjà vues dans les autres livres de la Bible. Ce n'est pas inconnu pour nous, les chrétiens, ces images-là. À double tranchant, il dit. Qui parle d'une épée à double tranchant? Qui pénètre jusqu'à l'esprit? Qui parle de ça? Les bons, là, mémoriser des versets? C'est hébreu? Oui, c'est hébreu. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle de ça. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et me voici vivant au siècle des... » Qui était mort et me voici vivant? Qui? C'est Jésus. « Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Écris donc... » Ce que tu as vu encore là, il dit, hein, écrit ce que tu as vu, ce qui va se produire par la suite. Quant au mystère, et là, dans l'Apocalypse, plusieurs fois, il y a des images, il y a des choses qui sont dites, et après, il nous donne un peu la signification, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais pas par toutes les images, quelques images. Dans ces cas-là, il nous donne, parce que des fois, on dit... Mais Jésus, avec des étoiles, mais qu'est-ce que ça veut dire les étoiles? Puis là, on tombe dans des spéculations, ok? C'est quoi les étoiles? Mais là, il nous dit, là, attendez, quant au mystère de cette étoile que tu as vue dans la main droite et aux 7 chandeliers d'or, et là, il nous dit clairement, les 7 étoiles sont les anges de cette église, ok? Et les 7 chandeliers sont les... Donc, c'est clair. Okay? Les chandeliers, c'est les églises et les quoi? J'ai oublié. Les étoiles. Les étoiles, c'est les anges. Maintenant, qui sont ces anges-là? Là, c'est encore là, il y a des livres écrits là pour dire qui sont ces anges-là. Les anges, c'est quoi là? C'est le mot, c'est messager, non? Traduit littéralement, c'est messager. OK. Est-ce que les anges, qui dit que les anges sont au service de ceux qui ont hérité le salut? C'est Paul, je crois, qui parle des anges, OK? Mais des anges aussi, ça peut être vu comme les responsables aussi de chaque église, qui sont responsables. Parce qu'il dit adresse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, mettons. Ça peut être vu aussi comme cela. Peut-être que vous avez une autre interprétation, c'est correct. Moi, je crois que c'est vraiment des gens qui prennent soin de ces églises-là. Que ce soit des façons spirituelles, des anges. Est-ce que vous pensez-vous qu'il y a des anges qui prennent soin ou qui, comment je peux dire ça là, qui prennent soin de l'église de Rosemont? Pensez-vous qu'il y a des anges qui gardent les chrétiens de l'église de Rosemont? Pensez-vous? Ben oui, je crois que oui. Il y a des anges qui nous gardent. Je pourrais pas dire que chaque chrétien a un ange. c'est un peu l'église catholique qui. Et même, il y a une prière pour l'ange gardien, c'est ça. Je ne sais pas, saurais pas vous dire, mais je suis sûr que oui, Dieu envoie ses anges, OK, pour des fois nous protéger. Je pense qu'il y en a plusieurs ici qui pourraient me donner des exemples là où Dieu a utilisé probablement un ange là, pour vous garder. Même, peut-être on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il dit l'Épître aux Hébreux, je crois? Il y en a même qui ont reçu des anges dans leur maison, puis sans le savoir, OK, des messagers. Moi, je crois que si on est dans un contexte d'église, et ça, c'est mon opinion personnelle, c'est correct, vous ne pouvez pas être pas d'accord avec moi, mais je crois qu'il parle vraiment aux responsables des églises. OK? Ça ne veut pas dire que le pasteur, c'est un ange. Je ne suis pas un ange, moi. OK? Mais c'est comme une image, quelqu'un qui est responsable des églises. Mais il ne faut pas se concentrer juste là. Parce que si on se concentre là, on perd vraiment le message à l'Église. Okay? L'important, c'est le message qui est adressé aux Églises. Donc, c'est probablement aux responsables des Églises. Aux anges, j'ai dit. Okay? Écrit à l'ange, mais c'est plusieurs anges. Okay? C'est vrai que dans l'Église de Dieu, qui sont les responsables, si on peut dire, de chaque Église? Ce sont les anciens. Les anciens qui sont des évêques. La même chose, ancien, pasteur, évêque, c'est le même mot. OK? Des fois, on fait la différence, le pasteur de l'Église, c'est le... Ben, pasteur, on a l'habitude de dire parce qu'on est à temps plein. OK? Mais on est aussi des anciens de l'Église. OK? Il y en a qui sont à temps plein, il y en a qui ont leur travail, leurs travaux, je peux dire, séculiers aussi. Donc, aux responsables. Donc, Jésus parle, pardon, à son Église. Donc, les messages ne sont pas des simples lettres, OK, des gens, mais des oracles ou des messages. Des fois, dans vos Bibles, vous allez voir « message à l'Église d'Éphèse, Smyrne », direct du Christ ressuscité. Donc, Jean n'est que le porte-parole de ce que la voix, comme une trompette, lui ordonne d'écrire. On l'a lu tantôt. Pour chaque Église, Jésus choisit un titre spécifique tiré de sa vision glorieuse, Apocalypse 1. Vous avez celui qui était, qui est vivant. Vous allez voir plusieurs dans les 7 messages, vous allez voir qu'il prend des paroles qu'il a déjà mentionnées pour se présenter à chaque église. Okay? On va le voir tantôt pour l'église d'Éphèse. Okay? Je suis en train de un peu dire ce que Mauricio a mentionné tantôt. Le fait qu'il marche montre qu'il n'est pas un spectateur, si on peut dire, lointain, mais qu'il agit au cœur de la vie de son église. C'est l'Église de Dieu, c'est l'Église. Je bâtirai mon Église, OK? Donc, il marche. Ça, c'est bon, hein? Cette image-là, il marche au milieu des chandeliers. Jésus est dans son Église. Il surveille, il prend soin de son Église. Mais il le prend par la main de quoi? Par le ministère de tous les responsables de chaque Église. Jean utilise une structure, Jésus utilise une structure constante pour parler aux églises. On l'a vu tantôt adressé à l'ange de l'église, on l'a dit. Une relation du Christ avec l'église, souvent tirée de la vision du chapitre 1, on l'a déjà vu. Il y a une éloge aussi à l'église, OK? Mais il se présente maintenant, OK? À chaque lettre, il se présente, comme au chapitre 1, là, OK? Un peu un titre qu'il a. Un éloge, OK? S'il est approprié. il y a, dans les sept messages, il y a des éloges, ok? Mais des fois, il n'y a pas d'éloges. Il n'y a pas d'église qui n'ont pas d'éloges. Donc, vous allez voir, ok? Donc, il passe tout de suite à ce que Jésus réclame pour cette église-là. Des fois, les messages sont durs. Vous l'avez déjà, vous connaissez déjà, mais on va étudier de façon approfondie. Il y a des reproches aussi aux églises. Si c'était approprié, parce que des fois, il n'y a pas de reproches. Il y a une église qui, ou deux églises même, qui n'y a pas de reproches. Donc, on va le voir dans notre étude. Il y a un appel à la repentance pour éviter le jugement. Encore là, si c'est le cas, si c'est approprié, un appel à la repentance. Aujourd'hui, on va en avoir. C'est le cas de l'église de l'Éphèse. Et aussi, il y a une exhortation à entendre le message que l'Esprit adresse à toutes les églises. Puis, il y a la promesse, à la fin, au vainqueur. Vous allez voir que dans tous les messages aux églises, à la fin, il y a toujours une promesse au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui prend le message et fait la volonté de ce que Jésus dit à chaque église. Donc, la structure des messages nous pousse à regarder l'envers du décor. Okay? Jésus invite Jean à monter au ciel pour voir les églises, non pas selon l'apparence humaine, c'est-à-dire la voix, l'aperçu humain, okay, de nous, là, mais des fois faible ou forte, mais tel que Dieu voit chaque église. Il dit, il monte, il voit la vision, il voit chaque église. Aussi, chaque message se termine par cet appel. Que celui qui a avez-vous des oreilles, vous? Oui, j'espère. OK, que celui qui a des oreilles, qu'est-ce qu'il dit? Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est bien dit, hein? C'est l'Esprit qui dit aux églises. La parole de Dieu est inspirée par qui? Par l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous lisons, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a permis cela. Qui l'a écrit? Jean. Oui, c'est Jean, mais dirigé par l'Esprit de Dieu, selon même son style littéraire, même son caractère, même. Okay? Vous avez lu les épîtres de Paul, et quand il écrit, il dit, bon, avant d'aller, je vais vous écrire parce que je ne veux pas aller tout de suite et vous chicaner, si on peut dire, en bon québécois. Donc, je préfère avant vous écrire. Donc, il a même respecté sa personnalité, mais c'est aussi la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une invitation, en fait, pour nous aujourd'hui, à prêter attention à ce que Dieu veut nous révéler dans ce livre de la Révélation, l'Apocalypse. Donc, on va, c'était une introduction, on ne le fera pas à toutes les lettres, oui. Peut-être on va faire à toutes les lettres, on va donner un aperçu de chaque ville, peut-être, c'était quoi cette ville-là, un peu un aspect historique, là, pour comprendre, ok. Ça nous aide aussi de savoir et comprendre pourquoi Jésus, des fois, mentionne des choses par rapport aux églises. Hein. C'est bon, on comprend l'histoire, un peu de l'histoire. Par exemple, j'écris à l'église de Rosemont. J'ai contre toi que tu es trop occupé à des choses que tu ne dois pas t'occuper. Et au lieu de... En tout cas, mais j'invente des choses. Les gens dans 500 ans, là, OK, mais je ne dis pas qu'il va y avoir une épître à l'église de Rosemont, hein, OK, on ne se prend pas pour... Je suis en train de donner un exemple. Le canon biblique est fermé, là. Okay? Donc, il n'y aura pas d'autre épître. Mais admettons, je suis donné un exemple. 500 ans après, là, les gens vont dire, c'est quoi? De quoi ils parlent, là? Mais les gens ici, on sait qu'on parle peut-être du bâtiment qu'on a, le nouveau bâtiment. Donc, vous savez? Donc, à cause de l'histoire, on peut savoir un peu de quoi il est en train de parler. Des fois, il y a des choses qui nous échappent, hein? Dans le message aux églises, parce qu'on ne connaît pas tout l'aspect historique, là. Et je pense que c'est même voulu par Dieu, OK? Mais, heureusement, on a des témoignages, encore là, je mentionne, qu'il y a des témoignages dans les premiers siècles de l'Église, là. Il y a des gens qui ont écrit. Ce ne sont pas des textes bibliques, mais on peut les prendre comme historiques aussi, pour voir comment était la vie dans ces années-là. C'est bon qu'ils pourraient nous aider à comprendre. Mais même si on ne connaît pas cela, le message est clair. Hein, on peut comprendre aussi le message que Jésus est en train d'adresser aux églises. Commençons par l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, vous avez le goût d'y aller? C'est beau, hein? C'est un port, là. Okay? C'est un port la mer Égée, je crois, oui, c'est ça, c'est entre la mer Égée, c'est ça. C'est la Turquie, la Grèce est là. J'aurais pu reculer pour voir un peu la situation, mais en tout cas, c'est en plein mer, là. C'est un port très riche. Okay, vous voyez un peu, vous voyez le théâtre, il y a un musée. En tout cas, on va voir un peu plus détaillé, là, mais ça doit être une belle ville. Vous voyez l'allée au milieu. Bon, ça, c'est une reconstruction, hein. C'est pas une photo aérienne de Google Maps. Ça n'existait plus comme ça maintenant. Mais ça doit être une belle ville quand même. C'est montagneux, en tout cas. Mais c'est la ville d'Éphèse. Mais l'Éphèse comptait environ 200 à 250 000. C'est quand même grand comme ville. Encore là, c'est des livres historiques. La Bible ne dit pas combien à l'époque, il y avait des habitants. Mais à cause de l'histoire, on peut savoir un peu, à peu près, là, 200 à 250 000 habitants. C'est quand même grand comme ville, okay, important. Et donc, était une des plus grandes villes de l'Empire romain. Un centre commercial et portuaire, on le voit, c'est un port majeur, carrefour stratégique entre l'Orient et Rome. Oui, c'est ça. Rome est vers l'ouest. Elle portait le titre de la première et la plus grande métropole d'Asie. Vous voyez là, pour rentrer à la mer, là, Éphèse est la première ville. On a vu un peu le trajet, là. Éphèse, c'est une des premières villes. On va monter à Smyrne. Smyrne aussi, c'est un port là, très important. Moi, je ne dis rien, c'est parce que mon frère Célestin, il va en parler la semaine prochaine. Là. Okay? Donc, Smyrne, l'autre église. Mais là, on reste à Éphèse, on descend. Okay? Puis la distance n'est pas... Il y a quelques juste centaines de kilomètres entre chaque ville. Hein? Donc, ce n'est pas long. Artémis d'Éphèse. Ou... pour les Romains, c'était Diane. Okay? Il y a même des... Et c'est fatigant, l'écho. Okay? Je m'entends, moi. J'entends des voix. En tout cas, et c'est la Diane d'Éphèse. Ça vous dit quelque chose, la Diane d'Éphèse? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y a eu, un petit problème, là, à Éphèse? Qui nous raconte ça? Le livre des Actes. Oui, donc c'est Artémis d'Éphèse. Artémis, c'est son nom grec, là. OK? La grande déesse de l'Asie. OK? C'est une déesse de la fertilité, qu'on l'appelait. De la chasse, même. De la nature sauvage. Elle était la divinité protectrice de la ville d'Éphèse. C'est la grande Diane d'Éphèse. Et puis, il y avait un temple pour... Cette déesse, là, Artémis, là, qui était... En haut, là, c'est le temple. OK? C'est un peu le temple que reconstruit, si on peut dire. Mais regardez ce qui reste, maintenant. Il y a juste une colonne, là, qui reste. Ils ont fait des reconstructions un peu, mais c'était un peu le temple comme en haut, là. C'était quand même imposant, hein? C'était à l'entrée de la ville, on dit, là. Donc, le temple d'Artémis, son sanctuaire à Éphèse, était l'une des sept merveilles du monde dans le temps. OK? Antique. Quatre fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Qui connaît le Parthénon d'Athènes? Je ne connais pas. Mais je l'ai vu sur photo. Mais ça doit être imposant comme structure. Symbole de puissance. Et ce temple-là, elle représente la fierté et l'identité de la ville. Les Éphésiens se considéraient comme les gardiens de son temple. Ils étaient fiers, vraiment, ces Éphésiens-là, de leur temple. Et comme je disais tantôt, là, c'est Domitien qui avait comme instauré le culte à l'empereur, là. Et même, il a construit un temple pour lui, là. Le temple de Domitien. C'est le symbole du culte impérial. C'est ce qui reste, en tout cas, du temple. OK? Un monument des puissances, OK? Érigé sur une vaste terrasse artificielle dominant la cité. C'est vraiment stratégique, là, où il était. C'est beau, hein? Éphèse, hein? C'est montagneux, là. Donc, moi, je suis allé voir sur Google Maps un peu, là. C'est beau. C'est très montagneux. Ça doit être, bon, côté de la mer. La ville d'Éphèse n'existait plus maintenant. OK? C'est une ville, une riserie, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, c'est tout près, là. Mais la ville d'Éphèse n'existait plus maintenant. Encore là, le temple à Adrien, c'est un autre empereur. Vous voyez le temple, là, c'est beau, hein? Là, c'est plus clair, là. C'est encore à Éphèse, mais c'est plus tard, dans les années 110. Ça a été érigé, ce temple-là. Donc, on dépasse le temps de l'Apocalypse, mais c'est tout près, là, quelques dizaines, vingtaines d'années plus loin. Donc, il y avait encore la persécution, si on peut dire, là, le temple d'Adéran en hommage à l'empereur, construit vers 118. Un des monuments les plus élégants, et les mieux conservés. Vous voyez, ça doit être beau le voir, ça doit être grand aussi, imposant. Érigé en honneur à l'empereur Adrien, illustrait les statues d'Éphèse comme ville gardienne aussi du temple. La bibliothèque, un monument des connaissances, sont connus par leur science, là, les Éphésiens, les Grecs, là, est l'un des vestiges les plus emblématiques de l'Empire romain. Et on dit que cette bibliothèque contenait à peu près 12 000 rouleaux, il pouvait. Mais à Pergame, quand on va voir l'église de Pergame, il y en avait une bibliothèque qui contenait 250 000 rouleaux, donc ça doit être très imposant comme bibliothèque. Et il y a le théâtre d'Éphèse. Nous avons le Centre Bell, eux, ils avaient le théâtre d'Éphèse, okay, situé près de l'entrée de la ville. Ils pouvaient accueillir 25 000, c'est comme le Centre Bell, ça, 25 000 spectateurs. Et regardez, là, ça existe encore, ce vestige-là, c'est sur le roc, là, OK? C'est assez grand. Et il dit que la façon, c'est-à-dire la... Comment je peux dire ça, là? Le son, là, comment on dit? L'acoustique. L'acoustique, le gars qui était au milieu, il pouvait parler comme moi, là, et les gens pouvaient entendre. C'est vraiment une œuvre d'architecture très poussée. On devrait appeler les Éphésiens pour nous aider dans la nouvelle église, là, pour avoir un bon son, là. Mais c'est ça, là. Donc, probablement, dans ce théâtre, il y a eu lieu le grand tumulte à Éphèse. Hein. Vous vous rappelez, là, que les gens voulaient comme faire la peau, si on peut dire, à l'apôtre Paul, là. C'est probablement dans ce théâtre-là. C'est un lieu de compétition aussi, et des courses de chars, des combats, des gladiateurs. Donc, on connaît un peu l'histoire de l'Empire romain. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la monnaie locale à Éphèse, parce qu'à la fin, on va voir quand même peut-être une signification. Peut-être c'est à cause de ça. Donc, l'arbre sur la monnaie évoquait ainsi la présence et la protection de la divinité de la cité. L'abeille aussi. L'abeille, c'est un symbole célèbre d'Éphèse. Là. Il représentait l'organisation, la pureté, la productivité de la ville. OK? Puis, vous voyez le cerf, là, l'animal sauvage associé à Artémis. Et la reine de la chasse. Puis on retrouve souvent à côté un palmier sur ces pièces. On dit que le temple d'Artémis a été construit sur un arbre mystérieux, là, okay, un grand arbre dans le temps. Et puis à côté, il y avait les statues d'Artémis. Donc c'est juste ça pour avoir une idée d'où on est là, à Éphèse. Donc lisons cette lettre-là. Apocalypse 2, 1 à 7. C'est les sept premiers versets du chapitre 2. Oh, c'est toute une exhortation à la fin, avertissement à la fin. Mais il y a quand même des bonnes choses au début. Hein. On se console peut-être avec ça. Mais si on se met à la peau de l'église d'Éphèse, nous comme église aussi, Rosemont, on a des choses peut-être bien pour l'église. Mais il y a des choses qu'on doit peut-être... C'est un message pour nous, ça s'adresse à toutes les églises. Là. On doit en tirer les enseignements. Mais, rapidement, l'église d'Éphèse est fondée par l'apôtre Paul dans les années 50 environ. Là, on est rendu à l'année 90. Donc, l'église a combien? À peu près 40 ans, là, déjà. C'est une église quand même mature, déjà. Peut-être qu'il y a des églises filles, là, dans les villes d'Éphèse, là, qui ont sorti de cette église-là. C'est l'apôtre Paul qui a passé environ, quoi? 3 ans à Éphèse, là. OK? Et il y a eu comme un genre de séminaire Sembec à Éphèse, qu'on appelle quoi? L'école des Tyrannus. Okay? Là, ils se sont formés plusieurs ouvriers. Donc, pendant 3 ans, Paul a enseigné à ces gens-là, à ces ouvriers-là. Okay? L'épître aux Éphésiens, donc Paul, on peut dire que Paul a comme... fonder cette église-là. Là, il y avait déjà des chrétiens baptisés par Jean, là, ici, qui ont eu le baptême de Jean. Mais l'église telle qu'elle s'est établie probablement dans ces années-là. Et l'épître que Paul écrit aux Éphésiens, c'est à peu près les années 60 à 62. Donc, vous voyez, là, 10 ans, 12 ans après. Mais cette église-là est riche théologiquement, comme on voit. Quand Paul écrit, là, il parle de l'élection, prédestination, la doctrine de l'Église, le corps de Christ. Si vous lisez l'épître aux Éphésiens, vous allez voir ça, l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ils connaissaient beaucoup de théologie, ces Éphésiens-là, à cause du ministère de l'apôtre Paul qui a permis cela. Donc, on grandit vraiment dans la connaissance. Non seulement dans la connaissance, aussi dans l'amour, mais on va voir ça tantôt. Le portrait de Christ, dans le verset 1, c'est lui qui tient les étoiles. Jésus se présente comme celui qui tient fermement les sept étoiles. Qui sont les étoiles? Dans la main droite. Mais les sept églises... Ouh là là, déjà, non, il est trop tôt là. C'est trop tôt. Celui qui tient fermement les sept étoiles. Les sept étoiles, c'est les anges, là, comme on avait dit. Les sept églises, c'est les chandeliers. Okay? Donc, il prend soin de son église. La souveraineté, cette image souligne que les églises lui appartiennent et que leur destinée dépend entièrement de lui. Dans le verset 1, on continue encore. Celui qui marche au milieu. Tantôt, il était au milieu. Maintenant, il dit, il marche au milieu. Chapitre 1, ouais, c'est ça. Il était né au milieu des chandeliers. Ici, il marche. Jésus marche au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il nous indique? Sa présence vivante, active, protectrice même de son Église. Hébreux 4:13 dit, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Donc, Dieu, Jésus, voit tout ce qui se passe dans son Église. C'est pour ça qu'il envoie cette lettre-là. Il y a des points forts pour cette Église, le travail et le discernement. Qu'est-ce qu'on a vu de positif pour l'Église? Rappelez-vous ce qu'on a lu? La persévérance, oui. Et une Église active, ok. Le Christ souligne... leur labeur, quoi d'autre? Leur fatigue, leur persévérance, l'intolérance au mal, il dit. Éphèse est félicité pour son refus de supporter les méchants. Okay? Donc, c'est une église bien assise au niveau doctrinal, théologique, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'exhorter les méchants et même, j'imagine, donc, qu'ils appliquent une discipline à l'église, là, puis... Il exhorte les méchants, même ils sont peut-être même chassés de l'Église. Le discernement, ok, le discernement. L'Église a su examiner et démarquer les faux apôtres. Il en parle des faux apôtres, ceux qui se sont nommés des apôtres dans le temps. Peut-être ils se considéraient comme l'apôtre Paul, Pierre et tous les autres. Donc c'était des faux apôtres. Il y avait un discernement pour vraiment les cibler. Et les exhorter, et même peut-être même les chasser de l'Église. L'endurance, ils ont souffert pour le nom de Christ sans se lasser. Il finit ça la première partie, quand on voit tous les points forts pour cette Église-là. Mais il y a un reproche, ok? On n'aime pas se faire reprocher des choses. On aime les éloges, c'est vrai? Toi, t'es comme ça. Mais, quand il arrive le mais, là, il dit, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Ok? Mais on n'aime pas, mais il faut encaisser. Il faut non seulement encaisser, mais il faut voir en quoi on est en train de faillir, puis se redresser, si on peut dire, corriger. Reproche central, l'abandon du premier amour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, l'abandon du premier amour? Pour vous, c'est quoi? Rapidement, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça peut être, l'abandon du premier amour? C'est-à-dire qu'ils ne s'aiment plus, les Éphésiens? Les gens ne s'aiment pas à l'Église? Froid, oui. Du zèle, oui. Quoi d'autre on pourrait dire? Voilà, une routine. Pourtant, c'est une église active, on le voit. Théologiquement, bien fondée dans la théologie des apôtres, l'enseignement des apôtres de Jésus. Donc, mais qu'est-ce qui arrive? Ils ont perdu leur premier amour. Malgré la bonne doctrine et une activité débordante, si on peut dire, l'Église abandonne son premier amour. Une dérive spirituelle. On peut être doctrinellement correct, là, mais avoir perdu la ferveur, si on peut dire ça, la ferveur. Le feu, si on peut dire. Et l'affection profonde, non seulement avec Christ, mais les frères aussi. Peut-être qu'ils ont perdu des choses. Ils sont vraiment actifs. Ils sont vraiment forts dans l'enseignement. Ça, c'est bon. Est-ce que ce n'est pas bon? Non, c'est bon. Mais il faut avoir un équilibre aussi. Okay? Mais ils ont perdu leur premier amour. C'est ce qu'ils faisaient ça. Leur motivation, ce n'est plus l'amour à Dieu. C'était juste des choses qu'ils ont déjà établies. Okay? Des choses qui sont... Et là, Jésus leur dit, faites attention à ça. Parce que ce qui est plus important, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la base. L'autre peut venir, vient après, là. Mais c'est l'amour à la base. On pourrait parler de ferveur des cœurs, motivation, priorité, relation exclusive. En tout cas, on pourrait parler de plusieurs aspects. Il y a quand même une exhortation. Jérémie, dans le chapitre 2, il dit, « Va écrire aux oreilles des gens de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour des jeunes filles, de ton affection des fiancées, quand tu me suivais au désert. Dans la terre stérile, Israël était consacré à l'Éternel. » Wow! On dirait un peu le même message. OK, mais il est adressé au peuple d'Israël. Maintenant, il est adressé à son peuple. Maintenant, à l'Église, il a perdu son premier amour. L'abandon, il est en danger. Dans ses amours, les œuvres deviennent mécaniques. On l'a mentionné tantôt. Deviennent mécaniques, tradition, et ils perdent leur valeur spirituelle. Mais il y a l'appel à la réaction. Trois choses, moi je voulais afficher tout de suite. Un, se souvenir. Est-ce que vous vous souvenez, vous savez quand vous faites quelque chose de mauvais? Souvent oui, hein, je crois. Hein. Dites-moi pas, non, je ne savais pas. Des fois on fait quelque chose de mal, puis dit, je ne savais pas que ce n'était pas bon. Au fond, des fois on le sait. Là. Donc, se souvenir. Et Jésus leur dit, hey, tu sais où tu es tombé là. Donc, souviens-toi, OK? De se rappeler où ils sont tombés. Et de repenser à leur ferveur passée, il dit. Se repentir, l'appel à un changement de direction radical même. Il dit non seulement se repentir et de revenir. Il demande de pratiquer à nouveau leurs premières œuvres, celles qui naissent de l'amour. Et là, on pourrait dire, qu'est-ce que sont ces premières œuvres? Si on vient de lire toutes les œuvres que les Éphésiens faisaient, qu'est-ce que sont ces premières œuvres? Encore là, vous savez, maintenant, on n'est plus à Éphèse. On ne peut pas voir, on n'est pas témoin de ça. Mais c'est sûr qu'ils ont failli alors. Ministère, peut-être il y a des œuvres au sein de la communauté, au sein des frères, ils ont négligé ça même. Okay? Donc il dit, reviens aux premières œuvres. Avertissement, si l'Église ne change pas, Jésus ôtera son chandelier. Elle perdra sa place et son rôle de témoin lumineux. Mais là, encore là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ôterai ton chandelier. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Ah, oui, à briller. Donc, il dit, je ôterai quoi ta lumière? Donc, l'Église va comme... Est-ce que c'est arrivé ici? Est-ce qu'on voit des églises que des fois, ils s'éteignent? Malheureusement, oui. Mais ce n'est pas la fin de l'Église. Pourquoi? Jésus dit que l'Église ne va pas mourir, là, si on peut dire. Vraiment, ça, elle va exister. Est-ce qu'elle va changer des places des fois? Il va y avoir d'autres églises qui vont naître? Oui. OK, mais malheureusement, il y a des églises qui vont... comme mourir. Et c'est l'avertissement maintenant. Oublie où t'es tombé et reviens à ton premier amour. Mais là, il y a une chose aussi de positive. Il dit qu'il y a une haine commune. Jésus félicite l'Église de haïr les œuvres des Nicolaïtes. C'est dit aussi à l'Église de Pergame. Okay? Et qui, lui, est aussi. Il n'aime pas les œuvres des Nicolaïtes. C'est qui ces Nicolaïtes? On ne sait pas. Aucune idée. Moi, j'ai cherché. Les gens disent que c'est probablement quelqu'un qui était contre la doctrine. On va le voir dans l'église de Pergame. Peut-être il y a quelque chose par rapport à Balaam, là, la doctrine de Balaam. Peut-être. Okay? Mais une chose est sûre, c'était quelque chose de mauvais. Des mauvais, mais si on peut dire, enseignants. Donc il dit, j'haïs ces œuvres-là. Il ne faut pas les pratiquer, ces Nicolaïtes. Peut-être il y avait quelqu'un qui ont conçu qui s'appelait Nicolas. Peut-être c'est là qu'il appelle le nom de Nicolaïte. La résistance au compromis, les Nicolaïtes encouragent probablement les chrétiens à participer aux fêtes païennes. Ça, c'est à cause de l'église de Pergame. On va le voir aussi rendu là. L'appel à l'écoute, encore là. Ça revient dans toutes les lettres. Que celui qui a des oreilles qui entende ce que l'Esprit dit à toutes les églises. Mais il y a une promesse aussi au vainqueur. Le don de la vie à celui qui rapportera la victoire. Jésus promet de manger dans l'arbre de vie dans le paradis des dieux. Donc, la vraie bénédiction, contrairement aux faux arbres, vous rappelez la monnaie, vous rappelez l'arbre dans Éphèse, là, et contrairement aux arbres sacrés des temples païens, OK, comme celui d'Artémis, cet arbre donne la vie éternelle et la communion parfaite avec Jésus. Probablement, il fait allusion à ça quand Jésus envoie ce message à l'Église concernant l'arbre de vie. Mais c'est quand même voir comment ça revient, cet arbre de vie. Ça fait référence à quoi? À la Genèse. cet arbre de vie était là. Est-ce que ça va revenir à la fin des temps? Oui aussi, ça va revenir à la fin des temps. Mais il ne va pas vraiment que tous les vainqueurs, en fait, de toutes les églises vont avoir accès à cet arbre-là. C'est un symbole pour dire qu'on va voir la vie éternelle avec Dieu, avec la présence, dans la présence de Dieu. Donc, l'Église, une Église qui fait tout bien, son travail, persévérance, mais qui échoue sur l'essentiel, la faveur de sa relation avec Christ. Il échoue, il faillit là-dessus. Mais le service pour Dieu ne peut jamais remplacer l'amour pour Dieu. Sans cet amour, le témoignage s'éteint. La plus grande rigueur doctrinale sans la charité n'est qu'un bruit assourdissant. Comme l'apôtre Paul, ça vous dit quelque chose ce passage-là? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Mais il n'y a rien sans l'amour. Donc c'est un peu ce message-là qui est adressé à l'Église, de revenir à son premier amour. Je sais qu'on a couru beaucoup, là, on a pédalé beaucoup dans ces... Mais ça se résume à ça pour l'Église d'Éphèse. Okay? Oui, il y a des bonnes choses. Oui, est active l'Église. Oui, ils étudient beaucoup la Bible, mais ils ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu vraiment l'attachement à Jésus. Peut-être ils faisaient juste ça par tradition, comme on peut dire. Est-ce que c'est mauvais les bonnes choses qu'ils faisaient les Éphésiens, c'est-à-dire et même exhorter les mauvais enseignants, c'était des bonnes choses. Mais si ce n'est pas motivé par l'amour à Dieu, c'est comme Paul dit, comme un errant qui résonne. Parce que l'amour, c'est important. C'est la base de tout. C'est bon? On commence par ça, par ce message à l'église d'Éphèse. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir le message à l'église de Smyrne. Quelqu'un qui pourrait prier, si vous voulez, pour conclure?